Morchamps ce soir en compagnie de...
Jean-Jacques Schul.
Ah, on dit Schul ou Schul.
On dit Schul, c'est à l'allemande. Ça vient de école religieuse juive peut-être. Et puis beaucoup disent Schul. C'est moitié-moitié, j'ai deux noms.
Et lequel préférez-vous?
Je crois que je préfère Schul, l'école.
Alors nous sommes chez vous, dans un appartement à Paris, face à un grand jardin. À côté de vous, une table. Et sur cette table, ben, c'est du Schul. Parce qu'il y a un journal, ou plutôt quelques feuilles d'un journal, plusieurs livres, un carnet d'adresses, plusieurs téléphones, des lunettes et des livres. Claude Simon, Marcel Proust, Oscar Wilde. Ça, c'est votre environnement sensoriel dont vous avez besoin? Ou c'est les livres que vous avez ouverts depuis quelques jours?
Oh, c'est un désordre anarchique, donc je ne suis pas spécialement content. Oui, c'est des livres qui ont atterri là. Proust au Majestic, qui relate un dîner en 1922 auquel ont participé Marcel Proust, Pablo Picasso, Stravinsky et James Joyce. C'était très décevant, les deux grands écrivains ne se sont rien dit. C'est très amusant. Quant au journal dont vous parliez, je suis très content. Il est là parce que la photo constitue la couverture du folio d'Entrée des fantômes. Et c'est une photo à laquelle je tiens beaucoup, qui a été faite par Jim Jarmusch sur le pont de Bir Hakeim, et où on est tous les deux comme deux espèces de... Oui, enfin, d'aliens, quoi, dans le pont de Bir Hakeim la nuit.
Et ça résume peut-être une partie antérieure de votre vie, Jean-Jacques Schul, celle de la nuit, celle des boîtes de nuit, celle des errances nocturnes.
Oui, la nuit, j'aime toujours bien ça. C'est l'endroit où les différences se fondent, où les mélanges se font, où s'estompent les mochetés. Oui, enfin, elle n'est plus, je ne vais pas faire de nostalgie, mais elle n'est plus tout à fait ce qu'elle était. Il y a toujours eu un endroit à Paris où se rencontraient l'artiste intellectuel, enfin, les gens de la nuit, un endroit un peu attractif et fascinant. Donc en 1925, c'était le Bœuf sur le Toit. Dans les années 60, ça a été Castel et Régine. Dans les 70, ça a été le Palace. Et aujourd'hui, en fait, aujourd'hui, il n'y a plus rien. Ça a éclaté. Il y a des tas de petites choses, mais...
Il y a un nouveau lieu, là, le Silencio, qui a été créé par David Lynch. Je suis sûr que vous avez été faire un tour.
J'y ai été, en effet, oui. C'est 4 étages sous le sol. Et c'est David Lynch qui en a fait la décoration. C'est un petit labyrinthe. Lynch, d'ailleurs, auquel j'ai beaucoup pensé quand j'ai écrit mon dernier livre, la première partie de mon dernier livre, Entrée des fantômes.
Mais vous, avant de rentrer à l'intérieur de l'univers de vos livres, Jean-Jacques Schul, où vous parlez d'ailleurs des boîtes de nuit, c'est plutôt le Palace, vos belles années.
Le Palace, c'était un peu... Il y avait trop de bruit, je trouve, au Palace. C'était le disco. Et c'était... On ne distinguait plus les gens, on ne pouvait pas se parler. Quelqu'un m'a dit, une jeune fille m'a dit, je lui ai dit, il y a trop de bruit dans les boîtes techno. Parce que maintenant, il y a encore plus de bruit dans le techno que dans le disco. Et il y a trop de bruit, on ne s'entend plus. C'est très désagréable. Elle m'a dit, tu n'as pas pris la pilule de la couleur qu'il faut. Alors, je crois maintenant que pour aller dans ces endroits-là, il faut bien choisir la pilule, bleue, rouge, verte, je ne sais pas. Peut-être que pour le bruit, le techno, il faut la verte, ensuite, ainsi de suite. Mais comme je ne prends pas de petites pilules, ça ne me convient plus.
J'ai l'impression que plus vous avancez dans la vie, plus vous vivez le jour et plus vous aimez le jour. Alors que dans votre jeunesse, vous n'aimiez que la nuit. En tout cas, c'est ce qu'on ressent quand on lit vos textes.
Mais tout de même, Le dernier livre que j'ai écrit, je dis dernier, ça sonne un peu curieux parce que j'en ai écrit très peu, mais c'est quand même le dernier.
Quatre quand même, hein?
C'est ça, mais enfin quand même dire le dernier des quatre alors. Non, non, le dernier des quatre livres que j'ai écrit s'appelle tout de même Entrée des fantômes. Et vous savez que les fantômes, c'est la nuit qu'ils se manifestent.
Le livre se passe constamment de nuit, le livre a une construction extrêmement sophistiquée et c'est comme dans une boîte de nuit justement, avec des sas différents, c'est-à-dire qu'il faut franchir des étapes initiatiques pour arriver à un texte qui est précédé lui-même de plusieurs textes et ça c'est un peu la marque de fabrique de Jean-Jacques Schou, l'écrivain.
Il y a deux parties, deux volets plutôt. Le premier est complètement tiré vers la fiction, une fiction fantastique. C'est un jeune mannequin qui est inspiré, disons, un peu de Kate Moss, un peu de Alice au Pays des Merveilles, un peu de composite. Donc c'est une fiction complète que je n'arrive pas d'ailleurs à terminer.
Et on est dans sa tête, nous, quand on vous lit.
Oui, il lui arrive des tas de choses. Elle est dans une espèce de nuit transfigurée, les drogues, la menace d'une mystérieuse force obscure, parmi lesquelles un archevêque très inquiétant, un cardinal, pardon, très inquiétant. Et la deuxième partie, le deuxième volet, pardon, cette fiction s'achevant de façon assez abrupte, le deuxième volet est en quelque sorte plutôt réaliste. Les coulisses, en somme, de ce que j'écris, enfin, c'est l'écrivain tout d'un coup qui est montré, celui qui a écrit cette première partie. Sauf que cet écrivain est à son tour propulsé dans un monde également fantastique vers la fin, et on retrouve au fond cette fiction un peu déglinguée et déjantée de ce premier volet. Il est propulsé dans ce monde fantastique parce que il a rencontré dans un restaurant chinois le cinéaste Raoul Ruiz, qui lui a très curieusement proposé de jouer le rôle du chirurgien fou des Mains d'Orlhac. Et à ce moment-là, l'écrivain, en moi, s'interroge pour savoir sur lui-même, est-ce qu'il aurait une partie si obscure, si trouble que ça, pour qu'il soit amené à qu'on lui propose ce rôle. Et j'ai procédé, enfin j'ai fait une sorte de simulation, comme les surréalistes faisaient des simulations de paranoïa, etc. J'ai fait une simulation, c'est-à-dire je ne crois pas du tout aux fantômes, mais j'ai fait comme si. Et donc j'ai écrit sur des fantômes, j'ai simulé que je pouvais jouer peut-être le rôle de Richard III, ou que j'avais voulu le jouer, que donc finalement j'étais attiré également par le spectacle, et ainsi de suite. J'ai fait donc une sorte de simulation. Ça m'a intéressé parce que je crois que dans l'écriture, est-ce qu'il y a des livres qui peuvent nous transformer? Est-ce que dans le courant de l'écriture, on peut se métamorphoser à cause de cette écriture. Je prends des exemples face auxquels je n'ai pas du tout l'intention de m'aligner, mais lorsqu'on lit ou qu'on lit un peu des livres, je prends les deux sommets de la littérature moderne française, l'un qui s'appelle qui est Le voyage au bout de la nuit, il y a le mot voyage, et l'autre qui est La recherche du temps perdu, qui est la recherche. Donc on a un voyage et une recherche. Et il est clair, lorsqu'on lit ces deux livres, on est certain, et on le sait d'ailleurs, si on se penche un peu sur leur biographie, que ces deux auteurs, d'une part, le livre s'est constamment fait, défait, refait au fur et à mesure qu'il était écrit, en fonction de leur vie, surtout Proust, d'ailleurs, qui a été beaucoup plus long comme écriture, puisque je crois qu'il s'agit de 14 ou 15 ans. Et donc, ils ont été changés par leurs livres. Et c'est une chose, à ma petite échelle, que je me demandais si c'était possible de le faire. Et donc, je me suis amusé à être aux prises avec des fantômes littéraires d'ailleurs, puisque je vois apparaître sur un pont le personnage de Gide de Lafcadio, qui est un personnage très oublié, mais enfin qui réapparaît tout d'un coup, cette espèce de dandy nihiliste. Il y a également le fantôme que je retrouve dans un hôtel, par hasard, enfin, son climat, son esprit, qui est celui du bleu du ciel de bataille. Il y a un ami à moi qui était le cinéaste Jean Eustache, et donc avec ces fantômes, je suis à la fin dans un. Plus tellement à ce moment-là dans la simulation. mais dans une sorte d'incantation où tout d'un coup je trouve une espèce de force grâce à eux que je n'avais pas au début de la première partie.
Vous parliez des fantômes, Jean-Jacques Schoul, et de certains de vos amis qui ont été très proches, notamment Eustache. Et grâce aux archives de la radio, nous allons pouvoir entendre sa voix. C'était le 18 septembre 1977, au micro de Claude Jean-Philippe.
On donne la parole aux auteurs, justement, quand ils ont fait quelque chose. À ce moment-là, la plupart du temps, on n'a pas envie de parler. Enfin, ce qui me concerne, j'ai plus rien à dire quand le film est fini. En revanche, après 1, 2, 3 ans d'inactivité, on a beaucoup de choses à dire. Évidemment, parce que si on ne travaille pas, en revanche, on doit quand même, malgré soi, réfléchir, même si on ne le veut pas. Alors c'est dans les moments de chômage long où les crises, où les idées deviennent très nettes. Alors avant de tourner la Maman et la Putain, justement, à l'époque, avant même de l'écrire, à l'époque où je n'avais pas travaillé depuis longtemps, j'avais tenu des propos un peu assez proche de ça, et à l'époque je m'en prenais aux moyens techniques modernes mis à la disposition du cinéma en pensant qu'ils n'apportaient en fait rien de très bon à la création, car j'avais trouvé la formule stupide à laquelle je tenais. Puisque la caméra tourne, le cinéma se fait. C'est pas la peine d'ajouter, de l'avoir des tourbillons et de lui donner une autre virtuosité. Puisque quand la caméra tourne et qu'elle est posée, bien, ça fait du cinéma. Ajouter quelque chose, c'est l'intervention de l'auteur dramatique. Alors, ça peut être à des fins, enfin, toutes celles qu'on veut, mais je crois que l'histoire du cinéma est faite de gens qui ne s'en sont pas servis de cette manière. Griffith, Renoir, Audreyer n'ont jamais, ou Frislang, les très très grands créateurs n'ont jamais utilisé la caméra. D'une autre façon que comme enregistrement de ce qu'il y avait devant. Il n'y a pas de cinéma selon un stage. J'ai été, à l'époque où il y a eu cette génération, j'étais cinéphile. C'était les années 60. Et j'ai aimé le cinéma pour le cinéma. Et pas parce que c'était un moyen. J'ai aimé le cinéma comme fin en soi. Et j'ai aimé le cinéma pour l'écriture, pour le cinéma. Je sais bien qu'à une époque ou après, il y a eu pas mal de crises. On s'est posé beaucoup de questions sur à quoi ça sert et pourquoi. Je sais bien que c'est un peu démodé de revenir à des vieilles croyances. Mais il n'y a pas de cinéma selon un stage, car mes premiers films sont, si vous voulez, une sorte de devoir d'élève sur ce qui m'avait beaucoup troublé, influencé, qui a été très très important dans ma vie, la Nouvelle Vague. Et puis plus tard, les films que j'ai fait plus tard, les films plus longs, ont été également des devoirs, des hommages, si vous voulez, rendus au cinéma qui avait eu une importance immense dans ma vie, je crois que c'est que dans ma vie, c'est le cinéma que j'ai le plus aimé. J'ai pas de conception du cinéma, j'ai une conception respectueuse d'une écriture que j'ai essayé d'apprendre et que j'ai cru parfois comprendre et parfois pas, et qui est à la lecture des grands films. Qui sont, bon, dans certains sont mes œuvres de chevet, si vous voulez.
Nous venons d'entendre la voix de Jean Eustache, qui, comme toujours, se révèle d'une grande modestie. Il fait allusion à une partie de son œuvre documentaire et il ne parle pas beaucoup de La Maman et la Putain. La Maman et la Putain, qui a été aussi une source d'inspiration pour votre dernier ouvrage, Jean-Jacques Schoul, En traite des fantômes.
Je crois savoir que au moins une grande partie d'un des deux personnages, l'ami de Jean-Pierre Léo, des tas de phrases qu'il prononce, c'est des phrases que j'avais moi-même prononcées. Donc j'ai eu ce reflet, cette image de moi-même, j'ai pensé à cette image de moi-même du film Jean Eustache. Ça a été un des éléments, lorsque je m'interroge sur moi dans le livre, après la phrase de Raoul Ruiz, après cette proposition.
Vous voulez dire que Jean Eustache s'est inspiré de ce que vous lui disiez pour pouvoir réaliser La Maman et la Putain,
non,
tellement
pardon,
votre proximité était grande.
Non, Jean Eustache, comme certains écrivains ou comme beaucoup de cinéastes, c'était pas un inventeur. Vous savez, je pense que chez les artistes, il y a deux types d'artistes. C'est Max Ernst qui disait ça. Il y a les inventeurs et les découvreurs. On voit bien ce que ça signifie. Les inventeurs, c'est l'imagination. Et les découvreurs, ce sont ceux qui se contentent d'essayer de découvrir ce qu'il y a dans le réel, de rapprocher peut-être deux images du réel, mais restent ne jouent pas sur leur imagination. Eustache, clairement, appartient à cette deuxième catégorie. Vous parliez de documentaire, je pense que tous ces films ont quelque chose de documentaire. Et on se voyait tous les jours avec Eustache, et on était une espèce de bande. Il y avait Jean-Noël Pic qui l'a beaucoup inspiré, il y avait quelqu'un que j'ai représenté sous les traits, enfin que j'ai un peu mythifié dans Rose Poussière, ce petit livre Rose Poussière, sous le nom de Frankenstein le Dandy, qui en fait était un Marseillais qui appartenait aussi à notre groupe. Nous étions 4 ou 5, et donc tout ce que nous disions était susceptible de se retrouver. Peut-être un peu figé d'ailleurs, mais se retrouver dans un film d'Eustache. C'est comme aujourd'hui dans l'autofiction. Eustache, c'était pareil. Et par conséquent, il y a effectivement un personnage. C'est le personnage de Charles, d'ailleurs, prémonitoirement, puisque j'ai pris, sans m'en rappeler d'ailleurs, dans Ingrid Cavan, je m'excuse de citer toujours mes livres, mais il y a le personnage, je me suis représenté sous le nom de Charles. Alors, inconsciemment, je pense inconsciemment, j'ai pas pensé, mais inconsciemment, j'ai repris donc le nom du. Que Eustache a donné à mon. Enfin, bah, une sorte de double qui est dans son film, qui est l'ami de Jean-Pierre Léaud.
Est-ce que vous vous situez dans le camp justement de ceux qui pratiquent l'autofiction? Parce qu'en même temps, vous vous en éloignez sans arrêt et en même temps, vous en introduisez aussi quelques petites pépites.
Alors. Ce que j'aime bien, c'est faire des va-et-vient, être la lisière de beaucoup de choses d'ailleurs. Je crois que le va-et-vient dans un livre entre la fiction, même la plus débridée, comme c'est le cas là dans Les Fantômes, et un réalisme très banal, me paraît beaucoup plus intéressant que se situer dans un camp ou dans un autre. La platitude souvent de l'autofiction, le nombrilisme souvent de l'autofiction, c'est pas pour moi. Je pense qu'il y a une phrase de T.S. Eliot que j'ai un peu fait mienne, enfin comme un motto que j'aime beaucoup. Poetry or artistry is not the expression of oneself, but the evasion out of it. Autrement dit, la poésie, si on veut, ou l'art en général, n'est pas l'expression de quelqu'un, mais l'évasion hors de ce quelqu'un. Bon, Eliot avait étudié les religions orientales. On s'approche là, en disant ça, évidemment, on s'approche un petit peu. Je ne voudrais pas trop aller là-dedans parce que je le connais mal. Je suis assez très profane. On s'approche évidemment d'un côté très un peu oriental, bouddhiste, disons, bien que ce mot soit galvaudé, de certaines sensibilités. Et donc, ça, j'aime beaucoup aussi. Et donc, les deux, disons, une certaine de banalité réaliste, si c'est possible, mélangée. Avec cette évasion hors de soi, parce que l'autofiction absolument ne le pratique pas.
Alors, je n'arrive pas à savoir si ce que vous vivez est exceptionnel ou si c'est votre manière de voir le monde qui rend ce que vous vivez, quand nous le partageons en le lisant, exceptionnel.
Regard. J'ai toujours vécu relativement banalement, hormis le fait qu'il est peut-être un peu anachronique et exceptionnel de n'avoir pas travaillé, de s'être comporté comme quelqu'un de d'une autre époque. Oui, enfin, je parle du travail social.
Vous n'avez jamais eu de bulletin de salaire?
Non. Et donc, ça, c'est tout. Mais autrement.
C'est déjà pas mal, non?
C'est pas mal, mais c'est pas ça qui fait.
Alors, de quoi vivez-vous? Parce que vous ne vendez pas non plus, même si vous avez eu prestigieux des prix littéraires.
Oui, mais ça
ça vous suffit.
Ça va. Mais oui.
Ça va.
Oui. Enfin, j'ai vécu de choses et d'autres, mais enfin, rien de. Ça n'est.
De choses et d'autres, mais on pourrait peut-être en parler, parce qu'il y a toujours un petit côté mystérieux chez vous.
C'est pas ça.
Dans vos livres aussi, d'ailleurs.
Oui, mais enfin, de choses, disons, pas de choses qui de nature à faire de moi un personnage extraordinaire. Et non, c'est le regard. C'est le regard et c'est les mots, enfin, comme tout écrivain.
Ce sont les êtres aussi.
Oui, ce sont les êtres. Je vis avec une chanteuse. Et alors, ça m'a permis de... Ça, c'est un peu particulier, en effet. Parce qu'un écrivain qui vit avec une chanteuse... et pas n'importe quelle chanteuse. On rentre alors dans une configuration en effet un tout petit peu exceptionnelle. Une chanteuse d'un très grand talent, qui a été actrice, qui a connu, qui a été mariée avec Fassbinder, en fait, c'est ce qu'on est, qui a été l'amie d'Yves Saint Laurent. Là, en effet, c'est ça, ça m'a permis de. Ben, ça m'a permis tout simplement de relancer une écriture que j'avais abandonnée pendant longtemps.
Eh bien, nous allons l'écouter.
Dans la chambre 100, il y a un sexe pistol et sa fiancée en sang. Dans la chambre 00 vide, il y a trois vidéos. Vidéo 1, Monroe. Vidéo 2, Harlow. Vidéo 3, Gabo. C'est le nom de trois chevaux. Dans la chambre 1050, il y a moi qui chante des chansons tragiques, des chansons très, très chic. Dans la chambre 00 vide, il y a trois vidéos. Vidéo 1, la bourse. Vidéo 2, les courses. Vidéo 3, rien. Une fragile voix d'enfant. Je vous jure que je ne me défonce plus, maman. Dans la chambre sans destin, il y a un gant noir par terre. Un gant de cycliste troué aux phalanges. Quelqu'un qui dit bonjour mon ange. L'autre qui répond je trouve vulgaire de mettre la main sur les yeux par derrière. Dans la chambre 1050, il y a moi qui chante des chansons tragiques, des chansons très, très chic. Vidéo, vidéo 1, rien. Vidéo 2, rien. Vidéo 3, moi. Dans la chambre à côté au téléphone, la fragile voix d'enfant. Le gant n'est plus là, mystère.
voilà, il m'a suffi de l'écouter chanter, de bien l'écouter chanter, de bien l'écouter parler surtout, parce qu'elle m'a beaucoup parlé pendant que j'écrivais ce livre Ingrid Cavan. Et moi, je me suis comporté comme un petit artisan, ajusteur, monteur. Après, ça a donné ce livre Ingrid Cavan, roman. C'est-à-dire que, voilà, alors on est tout à l'heure, on parlait autofiction, pas autofiction, voilà la réponse. La réponse, c'est Ingrid Cavan. Ingrid Cavan, roman. Où, en effet, pratiquement tout est vrai, mais du fait d'une certaine, on m'en a un peu crédité, d'une certaine musique de la phrase ou certains montages que j'ai opérés, on est sinon dans un roman, du moins ce qui compte, un univers romanesque.
Et oui, mais le romanesque, il existe naturellement ou c'est la personne ou le personnage d'Ingrid Cavan qui est au centre de ce texte? Ou est-ce que c'est la production du nom même d'Ingrid Cavan qui est producteur d'imaginaire romanesque?
C'est les deux, comme toujours. Et on ne sait pas s'il y a une illusion ou pas, s'il y a une imposture ou pas. Et c'est ça qui est très intéressant, qu'il faut jouer à fond. Même jusqu'au délire d'interprétation, très cher aux surréalistes, en particulier à Louis Aragon. Il faut jouer cette carte à fond, à mon avis, c'est ce qu'il y a de plus intéressant. C'est-à-dire faire confiance à ses fantasmes, faire confiance à ses délires d'interprétation, oui, faire confiance à tout ça. Mais évidemment, pas partir dans la folie, qu'il y ait un point de rencontre avec un élément, si petit soit-il, très réel, très banal. Mais c'est la conflagration des deux qui peut éventuellement produire un objet artistique et même simplement dans la vie un immense plaisir.
Oui, mais en même temps, on voit bien que depuis votre premier livre, Jean-Jacques Choule, Rose Poussière, qui est devenu un livre culte, les noms mêmes des actrices sont porteurs d'imaginaire et conducteurs d'imaginaire chez vous.
Oui, ce qu'on appelle le names dropping, le snobisme. Et donc, il y a en effet aujourd'hui, par exemple, dans les aujourd'hui où les idoles, enfin à l'époque de Rose Poussière du moins, c'était les icônes, c'était des gens de cinéma, par exemple, ou des gens de la mode, surtout du cinéma. Il y a une poésie intrinsèque dans un nom de cinéma. Ça provoque quelque chose comme un pictogramme ou un hiéroglyphe, tout d'un coup, ça. Quelque chose qui, immédiatement, on a des images qui surgissent dans notre cerveau.
C'est pas seulement le nom des actrices, c'est aussi de temps en temps des répliques. Et vous mettez en exergue cette réplique de Gloria Swanson dans Boulevard du Crépuscule qui dit, et ça revient ensuite dans le texte comme une sorte de ritournelle, « Lorsque je dansais dans les Bassing Beauties de Marc Sennett, j'étais à la gauche de Mary Pickford et elle me marchait toujours sur le pied droit. »
J'adore cette phrase. C'est une phrase que je trouve magnifique. Il y a à la fois la mécanique des chorus girls de Broadway et puis en même temps le petit détail qui n'est pas du tout mécanique, qui est une gaucherie. Enfin, je trouve cette phrase...
Gaucherie ou saloperie, d'ailleurs, peut-être. Hein.
Ou saloperie.
On peut s'interroger.
Perfidie, oui, oui, oui. Oui. Et je trouve la phrase extraordinaire. C'est une phrase que j'adore, oui.
Alors moi, j'adore Rose Poussière, comme beaucoup de lecteurs. Je l'ai relu pour notre entretien. C'est un livre donc qui est paru dans la collection de Georges Lambrix en 1972. Et voici comment ce livre commence. « J'aimerais un jour parvenir à la morne platitude distante des catalogues de la manufacture française d'armes et de cycles de Saint-Étienne, du comptoir commercial d'outillage, du manuel de synthèse ostéologique de Messieurs Muller, Algovert, Willenger ou des vitrines du magasin des pompes funèbres Borgnol, ces beaux poncifs. » En attendant loin du compte, j'ai recopié des rouleaux de Telex hippique, François, avec toutes ses éditions, des paroles de chansons anglaises connues, des dialogues d'anciens films célèbres, des prospectus pharmaceutiques, des publicités de mode, lambeaux sur lesquels furtivement s'écrit le temps mieux que dans les œuvres. Le reste, hélas, est de moi probablement. Le reste, hélas, est de moi probablement.
C'est comme ça, et c'est comme ça, avec cette volonté d'impersonnalité, que je me suis lentement, pendant plusieurs années, arrêté d'écrire. Ce n'est pas la seule raison, mais en fait, cette volonté d'impersonnalité mène, comme le ready-made de Duchamp, etc., mène logiquement au silence. C'est-à-dire, on se dit, je laisse parler les choses, je laisse parler le monde. C'est si l'on veut, dangereux, si tant est qu'on veuille écrire, absolument. Mais là, j'étais sur cette voie-là, d'autant plus qu'à cette époque, c'est les années 60-70, beaucoup de choses se passaient dans le monde. Il y avait la mode anglaise, il y avait les...
Ah bah, y a un chapitre qui s'appelle les boots, hein.
Oui, il y avait toutes ces modes, et les choses s'écrivaient, on avait l'impression que l'histoire et les choses s'écrivaient beaucoup plus qu'aujourd'hui. J'ai l'impression que les choses sont venues s'inscrire sur la page, sans vraiment que j'ai cherché ou voulu les écrire. Ça se rapproche du journalisme que j'aime beaucoup. Le journalisme est en train de disparaître, mais je fais allusion à François, qui a été un journal extraordinaire, où il y avait 5 ou 6 éditions par jour. On avait l'impression, en quelque sorte, que toute l'histoire venait se prendre dans le papier, chaque jour renouvelée, cette page blanche, de façon différente. Il arrivait des tas de choses de l'Est et de l'Ouest. Et c'était ça un modèle. Pour moi, une édition de François valait tous les livres à cette époque-là. Aujourd'hui, je ne parlerai plus comme ça.
En tout cas, ce qui ne s'est pas écrit tout seul à votre insu, c'est la construction de ce livre qui est fragmentaire, qui augure de tout un mouvement philosophique qui va s'appeler la déconstruction. Il y a des courts chapitres, il y a des chapitres qui font même qu'une phrase, par exemple, ou même des déconstructions de chapitres. Comme le Mise Z4, qui ne comporte qu'une phrase qui est ouais, qui rappelle d'ailleurs curieusement le wa-wa-wa d'Ingrid Cavan qu'on a entendu tout à l'heure. Donc là aussi, il y a un système de perdition, et en même temps, il y a des caractères typographiques différents. Et on a l'impression, évidemment, en lisant ce texte, que nous, lecteurs, on va essayer de savoir ce qui est de vous. Mais tout est de vous, puisque par définition, vous avez collecté des choses que vous avez trouvées dans différents supports, comme vous le dites au tout début du livre. Mais en même temps, vous en avez mis d'autres, parce que c'est dans un autre caractère typographique, j'imagine que c'est de vous, parce qu'il y a toute une méditation sur ce que c'est qu'un dandy, Frankenstein le dandy, etc. Et tout d'un coup, vous écrivez, enfin, il y a les Rolling Stones qui, sur eux et autour d'eux, appellent tout cela à la fois, deux points, le policier, le travesti, la danseuse Frankenstein, le dandy, le robot. Ça, c'est de vous.
Oui, c'est un commentaire des choses, tout simplement, un commentaire des choses qui sont venues se prendre dans le livre. Vous parliez de fragments, là, de fragmentaires. Fragmentaires, oui, à condition qu'il y ait toujours, hein, j'ai horreur des pot-pourris. Et donc, fragmentaire, il y en a des quantités, ce qu'on appelle collage aujourd'hui, pot-pourri, n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Et c'est devenu n'importe quoi. Et fragmentaire, oui, à condition qu'il y ait un fil, le fil d'une subjectivité, qui tienne ça. Là, on peut tout accrocher, le lyrisme, le burlesque, le morbide, l'autofiction, le destroy, le classique, n'importe quoi. Et je pense que c'est ça qui me paraît le plus intéressant.
17h43, 4e prix Cassandra, 401 Baudelaire, 402 Nonchalant, 403 Fils Unique, 404 Rêve de Gloire, 405 Forever, 406 Beau Poncif, 407 Ton Histoire, 408 No Satisfaction, 409 Let It Bleed, 410 Lady Jane, 19h03, 7e, 701 Bulle Eau Électronique, 704 Poupée de Chiffon, 19h50 Elena Rubinstein, La Femme qui avait fait de la beauté un marché mondial est morte à l'âge de 94 ans. 19h51, Zurich, commando FPLP embusqué derrière tas de neige et manteau noir attaque Boeing 720B El Al, piste numéro 28. 19h56, Londres, Brian Jones, guitariste soliste des Rolling Stones, est mort cette nuit à l'âge de 24 ans. Fin AFP, fin AFP, fin AFP, fin AFP, fin AFP.
Oui, les rouleaux de Telex qui arrivaient partout, dans certains cafés d'ailleurs où on se trouvait avec Eustache, et puis à l'AFP où j'étais allé, ce bombardement d'informations, espèce d'émetteur massif et continu, il y a cette beauté un peu romantique du 24 heures sur 24, des nouvelles qui arrivent dans le désordre, ça me fascinait beaucoup. Le journalisme et surtout le journalisme brut, le journalisme d'information rapide, celui de François et de l'AFP, c'est quelque chose qui m'a énormément, énormément fasciné. Mais encore une fois, ça, c'est des chevaux, par exemple, Baudelaire, Fils Unique, Rêve de Gloire. Je me suis amusé, des chevaux, certains qui existent.
Oui, vous êtes très fasciné par les courses hippiques. Hein.
Non, ça m'amuse. C'est les noms. Encore une fois, c'est les noms, les Kazakhs, c'est les uniformes, parce qu'il y a des Kazakhs, il y a la poids, etc. Je vais pas au champ de course, mais les Kazakhs, les noms de chevaux, oui, c'est encore une fois les noms me fascinent. Et là, je me suis amusé donc à construire une espèce de poème avec une liste de chevaux.
Brian Jones aussi vous intéresse énormément. Vous laissez entendre à l'intérieur de Rose Poussière que s'il est mort, c'est peut-être parce qu'il avait pressenti que sa singularité et sa créativité, voire son génie, allaient peut-être se dissoudre dans ce collectif.
Brian Jones, je l'avais vu deux fois en concert, une fois à l'Olympia, une fois je ne sais où, dans le premier concert qu'ils sont venus donner à Paris. Brian Jones avait quelque chose qui, moi, m'a fasciné. C'était longtemps avant que je fasse ce livre. Il avait quelque chose de très fantomatique et d'un peu absent, contrairement aux trois autres, et contrairement d'ailleurs à tous les groupes de rock. Et il avait quelque chose de très lointain, déjà peut-être appelé par l'abîme. Il était évidemment très drogué, tout ce que vous voulez, c'est anecdotique. Et donc il était déjà, je pense, happé par une grande partie de lui était dans l'ombre. Et je crois que la fascination des gens qui aujourd'hui disparaît, ce qui rend les gens fascinants, c'est l'ombre est en train de disparaître. Vous savez que dans les peuplades primitives, dites primitives, l'ombre et l'âme, c'est la même chose. Donc par un syllogisme facile, je serais tenté de dire que l'âme est en train aussi, l'ombre est en train de disparaître, tout est dans la lumière. C'est pour ça que j'ai fait cette entrée des fantômes où j'ai voulu beaucoup parler de la noirceur, de l'ombre, toutes choses qui aujourd'hui sont devenues plus ou moins incorrectes, ou du moins pas dans le coup. Et Brian Jones avait ça. Brian Jones avait quelque chose de très absent et très dans l'ombre, et une partie aussi bien sûr dans la lumière. Je crois que ça le rendait très, très, très fascinant physiquement.
Dans Entrée des fantômes, vous parlez de vous obliquement et vous faites advenir un personnage qui souffre d'un problème de hanche et qui ne veut absolument pas se faire opérer alors que ça lui pourrit la vie. Or, si on est chez vous, si vous n'êtes pas venu en studio, c'est parce que vous avez beaucoup, beaucoup de difficultés à marcher. Donc ce personnage vous ressemble énormément. Pourquoi ce personnage ne se fait-il pas opérer ? À l'intérieur de votre livre, les amis, les copains, tout le monde lui dit « mais tu devrais te faire opérer, ta vie serait changée, transformée, c'est rien une opération à la hanche ». Mais non, il dit non, de manière irrationnelle.
C'est peut-être la peur très, très irrationnelle d'ailleurs de la science. C'est peut-être dans ce livre du moins le retour à une sensibilité un peu magique, magie noire ou magie blanche, peu importe. Le livre baigne là-dedans du début à la fin. Et puis je ne sais quoi d'autre. C'est difficile, ça. J'ai forcé le trait. Je me suis amusé d'ailleurs avec ça. Il y a peut-être un côté exorcisme. J'ai forcé le trait. Je me suis montré volontiers grimaçant, ce que je ne suis pas, claudiquant, enfin comme une espèce de monstres de films d'horreur, ça convenait au sujet, ça convenait au thème. Je me suis amusé à me comparer aux boiteux célèbres pour me rassurer, à Héphaïstos, Vulcain qui boitait, à Lord Byron et même à Goebbels. Je me suis mis dans la cohorte des boiteux célèbres. C'est quand on a un défaut. Ça, c'est pas un défaut, c'est autre chose. Enfin, dès qu'on a un défaut, c'est bien de le partager avec des gens très connus. Ça met un peu de baume sur ce défaut. Quelqu'un qui zozote se dit oui, Marilyn aussi, et ainsi de suite.
Oui, je me suis demandé si ce personnage.
C'est mon snobisme aussi.
Oui, non, mais vous êtes quelqu'un de très snob, tout le monde l'aura compris.
Mon double dans ce livre, mais moi.
C'est presque très chic d'avancer avec difficulté dans un espace.
Très chic ou trash chic?
Peut-être les deux. Quand nous sommes arrivés dans votre appartement tout à l'heure, vous aviez, je vous l'ai dit, une attitude de danseur.
Oui, mais il paraît, quelqu'un m'a raconté que d'où vient la danse? J'avais posé la question, comment a-t-on commencé à danser? Enfin, aussi dans la mythologie, d'où vient la danse? Au départ, il y a le boittement, et ensuite, il y a la danse. L'esprit de danse, c'est autre chose. Il y a la danse et l'esprit de danse. L'esprit de danse, c'est ce qu'il faut avoir dans l'écriture. On peut boiter, d'ailleurs. Avant même de boiter, j'ai fait des phrases qui boitaient. J'aime pas les phrases rectilignes et trop bien faites. Je suis attaché à la phrase correcte, presque de l'Académie française. J'aime bien dedans quelque chose de syncopé et qui boite un tout petit peu. Et un peu, sorte de vagabondage boitillant. L'esprit de danse, si tant est que j'essaye de mettre, j'y arrive ou pas, est un peu à ce prix, donc.
Mais je me suis demandé, puisque vous nous avez autorisé à venir chez vous pour faire cet enregistrement, en voyant la pièce de travail où nous nous trouvons face à un jardin, en étant obsédée par un tableau qui est en face de moi, qui, comme un fantôme, va capter mon imaginaire, je suis sûre, cette nuit, parce qu'il figure l'image d'une jeune femme blonde, très fantomatique, elle, mais avec une présence absolument incroyable. Si finalement votre difficulté à sortir dans le dehors du monde ne correspondait pas à votre désir de rester chez vous, au milieu de vos livres, de vos tableaux, face à ce jardin.
Oui, ce tableau a appartenu à Rainer Fassbinder, c'est sa grand-mère qui lui avait donné. Et Fassbinder avait des goûts assez. On l'a présenté, ça c'était publicitairement plus intéressant, donc on l'a présenté comme une espèce de sauvage tout en cuir. Et c'est quelqu'un qui avait des goûts très, 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 très délicats. Et ce tableau en témoigne. Quant à être dedans ou dehors, alors il y a une porte-tambour dans le fantôme qui revient de façon
Elle
comme
peut être
une.
violente, comme toutes les portes-tambours
Elle peut être
d'ailleurs.
violente, vous savez, les malades de la maladie de Tourette, les malades de Tourette ont une pulsion lorsqu'ils se promènent dans une rue et qu'ils aperçoivent une porte-tambour. C'est Oliver Sacks qui raconte ça. Ils s'engouffrent dans la porte-tambour, la font tourner à toute vitesse, au risque, comme c'est le cas d'un patient de Sacks, d'en sortir avec d'un œil au beurre noir, complètement avec la tronche complètement cabossée. Mais enfin, il y a une porte-tambour qui revient, des porte-tambours reviennent dans les fantômes. Je l'ai fait passer 3-4 fois, divers porte-tambours. Et la porte-tambour est-elle ouverte ou fermée? Est-elle dedans ou dehors? Puisqu'on me parlait être dedans, aller dehors, rester chez moi, aller dehors. Et je me suis posé la question, je vous la pose aussi. Est-ce qu'une porte-tambour, puisqu'une porte doit être ouverte ou fermée, paraît-il, c'est pas mon avis, est-ce qu'une porte-tambour est ouverte ou fermée? Et est-ce qu'une porte-tambour est dedans ou dehors? Moi, je dis qu'elle est les deux dans tous les cas, et que c'est bien que les choses soient les deux. Donc, ne me mettez pas face à ce dilemme, autofiction, roman imaginaire, rester chez moi avec mes fantômes, aller dehors dans le soleil. Je choisis les deux.
Merci Jean-Jacques Schoul.
Merci, Laure Adler.